J'aimerais ce matin que nous puissions nous entretenir sur ce thème, rendre un culte à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons des déboires avec l'administration qui posent des problèmes pour reconnaître le caractère cultuel de notre association. Je ne leur en veux pas. Ils n'ont pas compris et ne savent pas. À part une définition légale, comprennent pas ce qu'est le culte. Donc beaucoup d'interrogations sont là. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller par ce que sa parole dit. Pour vous témoigner du décalage entre ce que les hommes pensent et ce que la parole dit, j'aimerais juste vous lire la définition du Larousse. D'habitude, on lit les définitions pour que ça nous aide. Là, vous allez voir, ça va nous montrer que la définition n'est peut-être pas assez approfondie. Dans le Larousse, il est dit que le culte, c'est un hommage rendu à Dieu. Donc déjà, ça me fait plaisir de voir que c'est un rapport avec Dieu. Parce qu'on peut donner beaucoup de cultes aujourd'hui, le culte de la personnalité, le culte de je ne sais pas quoi. Non, le culte, c'est quand on parle du culte, c'est Dieu. Et c'est personne d'autre. Ensuite, il est dit que c'est l'ensemble des cérémonies par lesquelles on rend cet hommage à Dieu. Les rédacteurs du dictionnaire Larousse n'ont peut-être pas poussé assez loin leurs investigations sur l'étymologie de ce mot. Cette définition qu'on a devant nous donne une image qui est vraiment très partielle de ce qu'est réellement le culte. Bien sûr, ce n'est pas faux de dire cela, mais c'est complètement incomplet. Je ne sais pas si on peut dire ça, complètement incomplet, mais bon, c'est bien, je l'ai dit. Je ferai deux remarques préliminaires. Rendre un culte à Dieu ne s'arrête pas à un moment déterminé. Le problème, c'est qu'on a appelé nos rassemblements les cultes. Donc on dit je vais au culte. Mais c'est une hérésie de dire je vais au culte. Continuez à le dire, c'est pas grave. Et puis la deuxième remarque, c'est que rendre un culte à Dieu sous-entend un don total de soi. Dans les traductions d'une bonne partie des mots concernant le culte dans la Bible, en hébreu ou en grec, je vous ai épargné la liste de tous ces noms, ces mots qu'on peut trouver. Et n'étant pas un spécialiste, j'avoue que je me suis un peu perdu à un moment donné. Donc j'ai dit si je fais celui qui sait, je risque de me planter. Donc je ne veux pas faire celui qui sait. Mais en tous les cas, ce que j'ai remarqué, dans les traductions qui nous sont données, il y a deux verbes qui reviennent régulièrement. Le premier verbe, c'est servir. Et le deuxième verbe, c'est offrir. Cela va plus loin, offrir un culte, cela va plus loin qu'une simple cérémonie, une célébration, même si célébrer fait partie du culte qu'on rend à Dieu, mais c'est une toute petite partie. On va lire dans Romains chapitre 12, verset 1, où là on a une définition de ce qu'est un culte. Et l'apôtre Paul nous parle d'ailleurs de ce qu'est un culte raisonnable. Voici ce qu'il est écrit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Wow! C'est plus le Larousse, là. Vous avez noté la différence? On retrouve le verbe offrir. On a dit que c'est une traduction qui revenait régulièrement. On trouve aussi la notion de consécration. Un sacrifice saint. La sainteté, ça ne signifie pas la perfection, comme souvent on veut le dire, mais ça signifie être mis à part, consacré. Et puis on retrouve la notion de service au travers du sacrifice. Sacrifice, service, ça rime ensemble. Je vous renvoie à nos études sur le sacerdoce universel. Pour que les choses soient encore plus claires, j'aimerais lire avec vous le même passage dans la transcription d'Alfred Kuhn. C'est la version de la Bible qu'on appelle parole vivante. Donc il n'est pas une traduction, mais une transcription. C'est-à-dire que, en plus de traduire, Alfred Kuhn essaye de compléter les phrases, de les élargir pour que ce soit plus compréhensible, plus approfondi. Donc il faut toujours l'apprendre avec précaution, il faut toujours revenir au texte original et mettre à côté. C'est pour ça que je vous ai lu d'abord le texte, dans la version second 21. Et là, je vous lis la transcription, qui est intéressante. « Je vous demande donc, frères et sœurs, bien sûr, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. » C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison demande. Amen. Si Alfred Kuhn met plus de mots que ce qu'il y a dans les autres traductions, c'est parce que dans les mots grecs, il y a des significations qui sont larges. Et il va bien en profondeur de toutes ces traductions, et notamment sur ce qu'est le culte. Et sur sa transcription, Alfred Kuhn reporte le commentaire de la Taube, de la Bible, la version, la traduction œcuménique de la Bible. Et le commentaire est celui-ci: ce texte veut montrer la différence entre le culte formel et extérieur et le culte véritable qui engage l'homme tout entier. J'aime ce commentaire, parce qu'il est précis. Il y a bien une différence entre ce que nous faisons ce matin, qui est le moment de célébration entre chrétiens, et le véritable culte. Bien sûr, ça en fait partie, mais attention, ça peut être quelque chose qui est en dehors du culte, si ça ne fait pas partie d'un tout. C'est l'être tout entier qui se donne lorsqu'on parle de rendre un culte à Dieu. Paul le rappellera à Timothée, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 15, il lui dira « Donne-toi tout entier. » Amen. Toutes les dimensions de l'être et de la vie sont concernées pour le don de soi. Je vais voir trois parties avec vous. La première, elle nous invite à tout donner sur le plan matériel. Est-ce qu'on peut venir louer le Seigneur dimanche après dimanche sans en même temps lui offrir notre offrande matérielle? On peut être fier de donner une partie de notre revenu au Seigneur. J'aimerais vous dire que vous ne donnez rien au Seigneur, vous ne faites que le lui rendre. Tout ce que vous avez, c'est lui qui vous le donne. Oh, mais pasteur, c'est quand même moi qui bosse hein, toute la semaine. Hein. Qui t'a donné ton travail? Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous le donne. Amen. Donc quand on dit je donne à Dieu, on devrait dire je rends à Dieu. Et on ne lui rend pas grand-chose. Hein. Si on s'en tient à la loi, c'est 10%. Lui nous a donné 100%. Hein. Je ne veux pas m'arrêter simplement à l'argent, on va y revenir, mais offrir ses biens matériels, c'est plus que ça. C'est offrir ma maison. Est-ce que votre maison appartient au Seigneur? Ou est-ce que c'est votre chasse gardée, fermée à double tour avec trois ou quatre verrous? Personne ne rentre. Ici, c'est chez moi. Vous savez combien la Bible insiste sur la notion d'hospitalité et le devoir de tout chrétien d'ouvrir sa porte, et notamment à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont seuls. « Oh, pasteur, oui, il y a tout le temps du monde chez moi. » Ouais, il y a tout le temps du monde, ouais. Tes amis, ceux que t'aimes bien. Et celui qui est tout seul dans l'église, à qui personne ne parle jamais, tu as pensé à l'inviter chez toi? Oh, pour faire des repas entre chrétiens, on est fort, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si on regarde bien, on se comporte comme le monde. On fait repas avec nos potes dans l'église. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Est-ce que tu as fait l'effort de dire, je vais inviter, tiens, cette personne âgée, toi qui es jeune, inviter une personne âgée à ta table, tu ne sais pas combien tu lui ferais plaisir. Ma voiture. Ma voiture, elle est au service du Seigneur. Amen. Et je bénis Dieu pour ceux qui, dans l'église, font des détours le dimanche matin pour aller chercher quelqu'un et l'amener à l'église. C'est mettre ça, c'est bien au service de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un à aller ramener. Ah, oula, il y a beaucoup de kilomètres. J'y vais. C'est le Seigneur qui m'a donné ma voiture, donc je la mets à son service. Mon ordinateur, mon téléphone portable, bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Tout ça est à son service. Et je reviens sur la question de l'argent. Vous savez que ce n'est pas ma tasse de thé de vous parler d'argent et que j'en parle rarement, mais je pense que ça fait partie de l'enseignement qu'on doit donner aussi à l'Église, qu'on n'est pas obligé de se taire là-dessus, même si en France c'est un peu tabou. Et je le répète encore, si vous donnez plus d'argent à l'église, ça n'augmente pas mon salaire. Donc c'est pas pour ça que je prêche sur l'argent. D'accord ? Que ce soit bien clair, parce que parfois il y a des confusions. Quand j'étais pas pasteur, j'entendais certains raisonnements de certains chrétiens qui n'avaient pas bien compris comment ça fonctionnait. Dans l'Ancien Testament, la dîme, c'était un impôt. C'est-à-dire vous n'aviez pas le choix. C'était 10%. Voilà. C'était comme ça et c'était pas autrement. La Nouvelle Alliance, elle aborde les choses différemment. On lit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé. C'est-à-dire c'est toi qui décides, c'est pas quelqu'un qui te dit tu dois donner 10%. Non, non, on n'a rien à t'obliger. Tu donnes ce que tu as décidé dans ton cœur. Tu vérifies que ce soit sans regret ni contrainte. C'est important, hein, parce que c'est sûr, si tu le fais avec regret, nous c'est bien, l'église ça nous fait de l'argent quand même, hein. Mais devant Dieu, ton offrande n'aura aucune valeur. C'est ça le problème. Ton offrande n'aura pas de valeur devant Dieu. Il faut que tu la donnes avec joie, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Quand on lit ce texte, tout le monde fait waouh, on n'est plus obligé de donner 10%. Et moi, je dis, tu peux donner 20. Amen. Tu peux donner 20%. Il n'y a pas beaucoup de amen. Je pense que 20%, beaucoup peuvent le faire. Ce que le Seigneur a béni matériellement, ils peuvent donner beaucoup plus. Bien sûr, quand je dis 20%, je ne m'adresse pas à ceux qui touchent le RSA ou une petite retraite. Pour eux, ce sera difficile de donner 10%. Mais vous connaissez la réflexion qu'a fait Jésus devant le temple, alors qu'il y avait les riches qui amenaient leur offrande, là, qui faisaient beaucoup de bruit dans le tronc, là, gling, 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 gling. Et puis la veuve qui est venue, qui a mis juste deux petites pièces, et Jésus a dit, c'est elle qui a donné le plus. Amen. Ça, c'est ceux qui sont d'accord de donner pas beaucoup, hein, qui disent amen. Non, je rigole. Je rigole. Je sais pas qui a dit amen. C'est une plaisanterie. Mais en fait, le peu que tu donnes, même si tu es juste au RSA ou si tu as juste une bourse étudiante, le peu que tu vas donner, si c'est de ton nécessaire, ça a une grande valeur devant Dieu. Toi qui es aisé, qui donne et qui en même temps peut t'acheter des tas de trucs, ça a beaucoup moins de valeur. Même si, évidemment, la somme est plus importante. On ne doit surtout pas donner pour recevoir, Mais j'aimerais vous dire que la loi de la semence, que l'on trouve dans la Bible pour tout, hein, on récolte ce qu'on sème, cette loi, elle vaut aussi pour notre générosité. Bien sûr, on ne doit jamais dire, tiens, Seigneur, je donne de l'argent pour ton œuvre, parce que je sais qu'ensuite tu vas me bénir matériellement. Si on le fait là aussi, dans ce sens, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Mais si on donne sans compter, sans réfléchir, avec son cœur, croyez-moi, le Seigneur est fidèle, on l'a chanté ce matin, et dans le verset qui précède, dans 2 Corinthiens 9, 6, il est dit ceci, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et c'est ensuite que Paul dit que chacun donne comme il l'a décidé. Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 10, il y a une phrase qui a toujours résonné dans mon cœur et qui m'a guidé dans le domaine de la dîme. Parce qu'il y a un contexte derrière. Quel est le contexte? Le contexte est que le peuple triche. Il faut donner 10%. Vous savez, en France, on ne triche pas pour les impôts, hein. On a la déclaration d'impôts, mais ah, il y en a, ils oublient de déclarer des trucs. Ils ont un bien mobilier qui loue, mais on va planquer ou on va faire des trucs en espèces pour pas qu'il y ait de traces, enfin, etc. La fraude fiscale, ça existe. Mais malheureusement, il y avait la fraude fiscale dans le peuple d'Israël pour la dîme qui était due à Dieu. Ça craint quand même. C'est-à-dire que les gens faisaient des calculs. Ils passaient du temps à calculer au lieu de donner sans hésiter avec leur cœur. Ils trichaient. Ils ne donnaient pas tout ce qu'ils auraient dû donner. Et Dieu va leur dire ceci: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Est-ce que Dieu parle de la bénédiction matérielle? Non. Et vous savez, on aspire au réveil, on aspire à des grandes choses dans notre pays, mais si en même temps on calcule ce qu'on donne au Seigneur, ou on triche, ou on ne donne pas avec joie, il ne faut pas croire qu'on verra quelque chose s'accomplir. Des pays qu'on appelle en voie de développement, pour ne pas ne les appeler comme à une époque sous-développée, nous donnent des leçons, mes frères et sœurs. Et parfois, on regarde les grands réveils qu'il y a chez eux et on se demande pourquoi. Mais eux n'ont pas le problème qu'on a, nous, les Occidentaux, avec l'argent et les choses matérielles. Ils sont capables de donner énormément alors qu'ils n'ont rien du tout. Le Seigneur veut nous interpeller, rendre un culte à Dieu, c'est ne pas tricher sur ce plan-là. Celui qui triche ou celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, il repart triste. Je vous renvoie au jeune homme riche. Si tu as la chance d'être riche, mon frère, ma sœur, de ne pas compter à la fin du mois, c'est une bénédiction de Dieu. Mais c'est une bénédiction qui t'a accordée pour bénir sur le plan matériel les autres et l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ce à quoi tu dois toujours penser au lieu d'agrandir et toujours sans cesse ton confort matériel, tes biens matériels, et vas-y que tu investis et que tu fais des crédits et autres. Seigneur, t'as pas rendu riche pour ça. Deuxième point. Tout donner sur le plan physique. Il est parlé de donner, d'offrir son corps. Dans Romains chapitre 12, verset 1, nous l'avons lu. Offrir son corps, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'aller vous faire immoler. Ce n'est plus nécessaire. Jésus l'a fait. Paul nous exhorte dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 6, versets 19 à 20, et il dit ceci: ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La question ce matin, c'est: que fais-tu de ton corps? Que fais-tu de ta vie? Le premier point qui s'est affiché, c'est la question de la pureté. Une première chose à laquelle nous devons penser aujourd'hui, dans ce monde perverti, dans ce monde où il y a toutes sortes de tentations, d'addictions, et notamment à la pornographie, dans ce monde où l'adultère est devenu une chose banalisée, et parfois même on dit que c'est bien d'être libre, que fais-tu de ton corps? C'est la question que te pose le Seigneur ce matin. Que fais-tu de ton corps? Notre corps peut devenir aussi l'objet de notre adoration. Est-ce que c'est ton corps qui est important ou est-ce que c'est ton âme? Des heures passées dans des salles de musculation, des heures passées dans des loisirs sportifs ou autres. Attention, tout cela n'est pas interdit. Mais est-ce que c'est ta priorité ou pas? Où est ta priorité? Où est ta priorité? C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. L'expression « offrir son corps », elle peut parler aussi du don de son temps. Combien de temps donnons-nous à Dieu dans nos journées? J'ai fait un calcul, ça fait très longtemps que j'avais fait ce calcul, j'étais responsable de jeunesse sur Albi à l'époque. J'avais fait ce calcul de savoir combien de temps, 10%, si on prend la référence, 10% d'une journée, ça fait combien? Ça fait combien, 10%? 2 heures, combien? Non, pas 2h40, non. Donc je vais vous aider parce que je suis très fort en maths, moi. Vous prenez 20 heures, divisé par 10, ça fait 2 heures. Donc on a 2 heures, ok? Après, quand vous prenez 4 heures, si vous divisez par 10, vous êtes embêté. Donc on va convertir en minutes. Ça fait 240 minutes. On est d'accord? 60 fois 40. 240 minutes divisé par 10, ça fait 24 minutes. Donc 2 heures et 24 minutes. Voilà ce qu'on doit passer chaque jour avec Dieu. Je vous laisse faire le calcul et voir tout ce qui vous manque. Bien sûr, c'est comme le 10% de la dîme, c'est une indication, mais ça nous appelle à réfléchir. Vous savez, vous avez tous les applis sur les portables, hein, savoir combien d'heures vous avez passé sur votre portable par jour. Je suis effrayé à chaque fois. Bon, après, je vous rassure, je m'en sers énormément pour le travail. Les textos, les WhatsApp, les groupes WhatsApp, les appels téléphoniques, etc. Donc ça me prend, on va dire, 80% de ce que je fais sur mon portable. Donc quand je vois beaucoup de temps, je me console avec ça, mais je me dis c'est incroyable le temps qu'on peut passer. Et avec le Seigneur, combien passes-tu de temps chaque jour? Ce n'est pas une loi, il ne faut pas le faire pour se conformer à une loi. Il faut que ça vienne du cœur là aussi. Qu'est-ce que tu as décidé de donner de ton temps? Qu'est-ce que tu as décidé? Et est-ce que tu le fais avec joie ou sous la contrainte? Et puis, offrir son corps, enfin, ça peut vouloir dire mettre les talents que Dieu nous a donnés à sa disposition. Les talents que nous avons ne nous appartiennent pas, c'est Dieu qui nous les a donnés. D'accord? Et Dieu nous a donné pour qu'on le serve avec, pas pour qu'on serve le monde. Pour qu'on le serve lui, pas pour qu'on se serve soi-même. Pour qu'on le serve lui. Les talents, de toute façon, moi j'ai pour principe, c'est pas écrit dans la Bible d'une manière formelle, mais c'est mon expérience et c'est la déduction de beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire tout ce qui concerne les musiciens, les chantres dans l'Ancien Testament. Ils exerçaient leur talent uniquement dans le temple. Uniquement dans le temple. Et nos talents doivent être consacrés à l'église locale. D'accord ? L'église locale, je vous rappelle, ce n'est pas seulement les services dans l'église, c'est aussi l'église dispersée, c'est ce que nous faisons là où nous sommes. Et peut-être tu as un talent, il y a un rapport entre tes talents et ton activité professionnelle, et c'est très bien. Mais en faisant bien ton travail, tu rends gloire à Dieu et tu sers Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre « Que ferait Jésus à ma place ?» Vous l'avez lu ou pas ? Je vous conseille de le lire. Ça raconte l'histoire d'une dame qui avait une voix extraordinaire et qui aurait pu faire une grande carrière professionnelle. Et qui a choisi de mettre son talent au service du Seigneur, dans son église. Amen. Et ça a entraîné des choses incroyables dans son église derrière. Incroyable. Je vous invite à le lire. Paul nous dit de rendre gloire à Dieu dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Ce sera la troisième partie, on l'a lu tout à l'heure. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et il est parlé de donner tout son corps, mais aussi son esprit. Et le troisième point, c'est tout donner sur le plan spirituel. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est écrit ceci, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça peut vous aider pour la partie précédente, hein. Ceux qui ont du mal avec ce qu'ils font de leur corps. Marchez selon l'esprit et vous verrez que ces choses disparaîtront de vos vies. Ici, qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de marcher selon l'esprit ? Eh bien, il nous est parlé clairement de l'abandon total de soi. Rendre un culte à Dieu, c'est lui abandonner totalement sa vie. Ça veut dire quoi concrètement ? Abandon de soi. Premièrement, être capable de laisser de côté mes raisonnements. Ça, c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté. Chacun a son avis et son opinion sur tout. Vous n'avez pas remarqué ? Vous, vous n'êtes pas comme ça. Moi, je suis comme ça. On a toujours une opinion et un avis sur tout. Je rigole quand le sélectionneur Didier Deschamps annonce les gars qu'il a sélectionnés. Il y a toujours des gens pour dire « Ah, mais il n'a pas pris celui-là, il n'a pas pris celui-là. » Et chacun sait exactement la composition qui serait la meilleure. Dans l'église, personne ne dit « Moi, je sais comment ça devrait marcher pour que ça aille mieux. » En fait, nos raisonnements nous empêchent de réellement nous abandonner au Seigneur. Personnellement, si je peux rendre un témoignage là-dessus, j'ai fait partie de ces gens qui pensaient que moi, j'avais compris comment ça devait marcher dans l'Église pour que ça fonctionne bien. Et puis évidemment, il n'y avait que ma manière qui était bonne. Les autres, forcément, se trompaient. Et un jour, le Seigneur m'a repris par rapport à ça. Au travers d'un livre qui s'appelle « L'autorité spirituelle » de Watchman Nee, où il est écrit ceci, il y a des personnes dans l'Église qui pensent qu'il y a deux êtres omniscients sur Terre, Dieu et eux. Et quand j'ai lu, aujourd'hui ça me fait sourire, mais quand j'ai lu ça, je le lisais tout seul, là j'étais, quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a dit « ça c'est toi ». Ça... Vous en prenez une petite. Mais moi, je bénis le Saint-Esprit quand il me parle comme ça. J'avais besoin qu'il me le dise. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je me suis efforcé depuis ce jour d'essayer, parce que la vieille nature revient, vous le savez, d'être à l'écoute, d'être capable de voir quelqu'un d'autre travailler différemment que moi et de me dire, ben oui, pourquoi pas comme ça aussi. Être à l'écoute. Et arrêter aussi de faire des raisonnements tout le temps. Et parfois, j'en faisais même à la table familiale devant mes enfants. Et aujourd'hui, je le regrette profondément de faire des commentaires sur l'Église, sur ce qui devrait être fait, pas fait, etc. C'est pas à cela que Dieu nous appelle. Il nous appelle à laisser nos raisonnements. Et j'ai appris depuis ce jour à dire, mais De toute façon, oui, peut-être que j'ai raison, peut-être c'est comme ça qu'on devrait faire, mais on n'y arrive pas, ça ne se fait pas. Mais au bout d'un moment, vous dites, ben, Seigneur, je te laisse ça entre tes mains. Je te laisse ça entre tes mains. Et plusieurs fois, je me suis rendu compte que, alors que Seigneur m'avait mis une idée en tête et tout ça, j'ai voulu vraiment la développer, je voyais que ça ne pouvait pas se faire et que j'ai abandonné. Et bien, quelque temps après, ça s'est fait. Et parfois, ça ne se fait jamais parce que tout simplement, ben, je n'étais pas sur la bonne voie. Mais quand on abandonne, au moins, on laisse faire le Seigneur. Mes projets, l'abandon de soi, mes projets. Moi, je rêve d'une église où les gens soient capables de changer leur emploi du temps à la dernière minute. Je pense qu'on est arrivé dans un siècle où on est mangé par nos emplois du temps. On ne peut plus rien bouger. Même les retraités me disent, j'ai pas le temps. C'est vrai? On ne peut plus rien bouger. Tout est calé. Et là, on dit, ah, ce serait bien qu'on jeûne et qu'on prie. Ah, je peux pas. Ah, ce serait bien que ce soit. Ah, tiens, je viens d'apprendre qu'un tel a un souci. Ah, je vais l'inviter à manger ce soir. Ah non, non, on peut pas. On peut pas. J'ai pas le temps. Ah, j'ai pas fait les cours, j'ai pas. C'est comme ça qu'on fonctionne, oui ou non? Et parfois, on a fait des beaux projets aussi, hein. On a fait des beaux projets sur l'avenir, à long terme. Mes frères et sœurs, faites des projets, vous avez le droit. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes réellement enfant de Dieu, conduit par l'Esprit, vous devez vous attendre à ce que vos projets soient complètement bouleversés. Et si vous n'êtes pas capable de ça, vous allez passer à côté de choses extraordinaires. Parce que c'est quand on met des coups de pied dans ses projets que d'un seul coup on se rend compte que Dieu fait de grandes choses. Alors que quand on est dans sa routine et tout ce qu'on a prévu, tout qu'on a bien cadré, comment voulez-vous voir la providence de Dieu? Vous ne la verrez pas. Puisque vous maîtrisez tout, vous faites tout comme il faut. C'est au bout d'un moment où on dit, stop, stop, tout ça, j'avais pensé faire ça, stop, stop, j'arrête tout. Seigneur, dirige-moi. C'est ça, rendre un culte à Dieu, mes frères et sœurs. En fait, c'est lui offrir ma vie. Le don de sa vie en réponse à ce que Jésus a fait. Jésus a offert sa vie sur la croix. Est-ce qu'il a fait des calculs? Est-ce qu'il a donné une petite partie? Oh, je donne ma main, je donne mon pied. Il s'est offert tout entier. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Amen. Si l'Esprit prend la main, si l'Esprit prend le dessus, nous pouvons nous attendre à vivre des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Amen. C'est ce que je souhaite alors qu'on commence cette année scolaire. Je souhaite vraiment qu'on vive des choses extraordinaires. Dans l'idée de rendre un culte, j'ai cité des verbes qui sont donnés, et il y a aussi un verbe qui revient souvent, c'est le verbe révérer, craindre, honorer. Ça veut dire se soumettre. Révérer quelqu'un, l'honorer, si on ne se soumet pas à lui. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, oh Luc, tu sais, je te considère vraiment comme un père spirituel, machin, etc. Enfin, des grands mots, etc. Vous leur donnez un conseil, ils ne le suivent pas, ils ne vous écoutent même pas. Bon, les paroles, c'est bien. Hein? Les paroles, c'est bien. Je parle d'une vraie soumission, pas à Luc, évidemment, à Dieu. Ou à chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, on le fait. Et même comme il a été dit dans un don spirituel, même si je ne comprends rien à ce qu'il me demande, on l'a vu dans les clés des victoires de Jéricho, hein? Même si on ne comprend rien, on y va parce qu'on sait que Dieu, il connaît la bonne manière de faire. Comment puis-je soumettre ma volonté à sa volonté? Il n'y a qu'un seul moyen, mes frères et sœurs. C'est un renouvellement de l'esprit. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, on va reprendre le verset 1 et on va lire le verset 2 qui suit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, c'est la suite, écoutez bien, ne vous conformez pas au monde actuel. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on doit faire des cultes conformes au monde actuel? Je ne le crois pas. Je crois qu'on doit faire des cultes conformes à ce que disent les Écritures. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une relation entre le culte raisonnable et faire la volonté de Dieu. Amen. Je pense à Salomon, à qui il est rendu possible de demander ce qu'il veut à Dieu, et ce qu'il va demander, c'est la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple, pour faire ce que Dieu lui a demandé. C'est ça ta priorité lorsque tu pries ? Demander à Dieu de te qualifier pour ce qu'il t'a demandé de faire ? Ça doit être ça ta priorité. Avant tes besoins personnels. Seigneur, qualifie-moi, oins-moi, consacre-moi pour ce service auquel tu m'appelles. Je pense à Jésus, à Gethsémané, qui dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. En conclusion, je voudrais vous dire que ces trois types de dons de soi, le don des choses matérielles, le don de son corps, le don de son esprit, sont indissociables. On ne peut pas faire l'un et pas l'autre. Oh, mais moi, je donne tout mon temps et je donne mon esprit, mais je ne donne pas mon argent. Ou pas ma maison. Ou je donne ma maison, je donne mon temps, je fais beaucoup de choses, mais pas mon esprit. On ne peut pas. Tout ça marche ensemble. Dans Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16, il est dit, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. N'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On voit qu'il y a la célébration, on voit qu'il y a la confession, et on voit aussi qu'il y a l'action. On retrouve ici le verbe offrir, et on retrouve la notion de sacrifice, de service. Et le fait que tout cela est lié, je vous invite d'ailleurs à lire toute la deuxième partie du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Quel culte as-tu réellement offert à Dieu jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma sœur ? Est-ce que cette méditation te fait réfléchir ou pas ? Est-ce que tu fais tout bien parfaitement ? Bravo. Ou est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'à des moments, tu es passé à côté ? J'aimerais qu'on incline nos têtes, qu'on se place devant Dieu. Je vais relire la transcription d'Alfred Kuhn. Et j'aimerais que pendant que je la relis, vous puissiez réfléchir devant Dieu. Je vous y invite vraiment, mes frères et sœurs. Beaucoup de textes dans la parole, et notamment Jésus, a dénoncé l'hypocrisie. Et aujourd'hui, ma conviction, c'est que de plus en plus dans les églises, il y a des attitudes d'hypocrisie. Avec des gens qui célèbrent Dieu, mais qui en fait ne rendent pas un culte à Dieu. Des gens qui n'ont pas compris cette différence qu'on a lue dans le commentaire de la Taube, la traduction œcuménique de la Bible, la différence entre une célébration et rendre un culte à Dieu. Et si jamais tu as vécu cette confusion, bien demande pardon à Dieu ce matin. Et réfléchis à ce que dit la Bible. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier. Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute ta vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison demande. Amen. Amen. Est-ce que tu veux lui offrir un culte nouveau ce matin ? Est-ce que tu veux lui offrir un culte nouveau, un culte qui ait du sens ? Alors médite sur ce qui a été dit ce matin. Et mets-le en pratique, mon frère, ma sœur. On va prier quelques instants. Et j'aimerais que peut-être inviter ceux qui ont le désir d'aller plus loin avec le Seigneur. pour lui rendre un véritable culte, un culte raisonnable, mais qui se lève à leur place, comme en disant « Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment à faire ce que tu me demandes, à ne pas faire les choses partiellement, les choses d'une manière calculée, d'une manière avec mon intelligence humaine. Seigneur, pardon pour une partie de ma vie où je n'ai fait que le culte de célébration, mais je veux vraiment offrir toute ma vie ce matin. Je veux déposer ma vie sur l'autel comme un sacrifice vivant à la gloire et à l'honneur de ton nom. Seigneur veut vraiment sensibiliser son église ce matin à un démarrage. Vous savez, les équipes sportives, j'ai souvent entendu ça ayant fait du sport, il y a des équipes sportives qui vivent échec sur échec et ils continuent d'avoir le même entraîneur et de faire toujours le même entraînement. Et ça paraît tellement stupide. Mais dans les églises, vous avez des gens qui veulent voir du changement dans leur vie, mais ils continuent de faire toujours pareil, ce qu'ils ont fait depuis toujours. Or, le Seigneur veut qu'on change nos manières de faire. Il veut qu'on évolue. Il veut qu'on aille plus loin, mes frères et sœurs. Il veut qu'on aille plus loin dans la consécration. Amen. Il veut qu'on aille plus loin dans le don de soi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions tous ensemble. Élevez vos voix et demandez à Dieu de vous faire grâce ce matin. Demandons-lui ensemble, je me lève comme vous vous êtes levés, la plupart d'entre vous. Je me lève aussi. Je me lève aussi pour offrir ma vie, pour offrir ma vie sur l'autel, aller plus loin, me donner tout entier à lui. Amen, Seigneur, oui, ensemble, nous nous levons devant toi, ton Église. Nous sommes là, Seigneur, nous avons conscience de te rendre un culte encore bien imparfait. Seigneur, s'il te plaît, viens encore toucher nos cœurs, nos vies, afin que nous soyons transformés dans notre intelligence et que nous puissions t'offrir un culte nouveau. Un culte nouveau, Seigneur, oui. C'est notre désir pour cette année qui vient, que nous offrions chacun individuellement, mais aussi en tant qu'Église, un culte nouveau. Alléluia, que tout ce que nous faisons soit rafraîchi, que tout ce que nous faisons soit conduit par l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, merci parce que ce matin tu renouvelles. Merci parce que ce matin tu ouvres les yeux des aveugles. Et maintenant ils voient ce que tu attends d'eux. Je rends gloire à ton nom pour ta parole. Je rends gloire à ton nom pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Et qu'à toi soit toute la gloire. Amen. 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 À Dieu soit la gloire. Alléluia.